Bonjour. Est-ce que vous vous sentez persécuté? Un petit peu. Frère André, le fondateur raconte que c'est un homme qui est d'origine, qui est hollandais au départ, après être allé un peu dans tous les pays du monde, raconte que à l'époque du rideau de fer, à l'époque de la Russie communiste, il avait pu faire sortir certains chrétiens de ce qui était à l'époque l'Allemagne de l'Est, et que ces chrétiens se réunissaient chez lui, dans son salon. Et un de ces chrétiens de l'Allemagne de l'Est lui avait dit « Et ici, aux Pays-Bas, de quel genre de persécution souffrez-vous ? » Et frère André lui avait dit « Ben écoutez, dans notre pays, nous ne sommes pas persécutés, nous sommes libres de notre foi. » Et ce frère de l'Allemagne de l'Est avait été froncé les sourcils. Il avait dit « Mais alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que dans ma Bible, il est marqué que tous ceux qui veulent vivre fidèlement à Dieu seront persécutés. » Alors, je vous pose une question terrible que je me pose aussi. Si nous ne sommes pas persécutés, est-ce que c'est parce que nous ne dérangeons personne ? Et ça, c'est terrible. Est-ce que nous nous fondons suffisamment dans le paysage pour que cela ne dérange personne? Je laisse cette question sur mon cœur, sur le vôtre aussi, accessoirement, mais... Tu m'envoies la lumière, s'il te plaît? Je vous propose de réfléchir. Nous qui ne sommes pas dans un pays où la persécution règne, même si ça peut arriver à certains de nous de la subir, de réfléchir sur ce thème, faire les œuvres de Dieu pendant qu'il fait jour. Et je vous propose de lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, un récit bien connu. Évangile de Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et puis, si on continue le récit, Jésus va guérir cet aveugle. Une question qui se pose. Ça marche. Une question que les disciples ont posée. Pourquoi ? Quelle est l'explication de la souffrance de cet homme ? Qui a péché ? Voilà ce que les disciples veulent savoir. Ça les intéresse apparemment bien plus que qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Et nous-mêmes, lorsque nous entendons les récits qui nous racontent les souffrances des chrétiens persécutés, parfois on se pose cette question, mais pourquoi ? Ah, d'où ça vient ? Pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi nos ancêtres ? Je suis ardéchois d'origine, c'est un pays où le souvenir des dragonnades, le souvenir des guerres de religion est encore vivant. le souvenir des persécutions dont les protestants ont porté beaucoup de peine. Nous posons la question, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ou qu'est-ce que leurs parents, leurs ancêtres ont fait pour en arriver là ? Eh bien, curieusement, la parole de Dieu ne donne pas de réponse à cette question. Et Jésus, dans le texte, ne dit pas, ben, je vais vous dire pourquoi il est aveugle. Il va simplement dire, mais à cause de ce, dans ce, cette infirmité, Dieu va manifester sa gloire. Je vous propose donc quatre affirmations pour remplacer la réponse à cette question. Il ne nous revient pas de connaître la réponse théorique à toutes les questions. Les chrétiens ont des tas de pourquoi. Et parfois, ils ont quelques réponses. Mais pas toujours. Parce que Dieu ne nous donne pas les réponses à tout. Mais par contre, ce qui nous revient, c'est de nous engager pour faire ce que Dieu attend de nous. Jésus ne donne pas d'explication à la cécité de cet homme, mais il dit, il faut que je fasse, pendant que je suis là, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas si certains se souviennent de la venue de Mike Evans dans notre église il y a, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, et qui nous avait dit, ça m'avait frappé, que lorsqu'on se pose une question, pourquoi telle situation, il fallait la traduire dans notre fort intérieur, plutôt par la question vers quoi ? Vers quoi est-ce que Dieu veut me mener dans telle situation ? Ou, comme je l'ai écrit là, pourquoi, en deux mots, pourquoi faire ? Pour quelle raison je dois, enfin, vers quelle raison, vers quelle résolution je dois m'engager ? Et nous devons imiter notre maître ? J'ai réalisé en préparant cette prédication que Jésus dit « Je suis la lumière du monde », Jean 9, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mais qu'en Matthieu 5, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Nous sommes la lumière du monde dans la mesure où nous reflétons la lumière de notre maître. Si notre puissance est beaucoup plus faible, notre message est le même. Si notre message est une répétition de celui qu'a apporté Jésus-Christ, c'est proclamer la vérité, la parole de Dieu. Nous devons faire les œuvres de celui qui nous a envoyés. Donc, pas d'interrogation, de l'action. Et Jésus nous avertit, ça ne sera pas toujours possible. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pardon. Nous devons nous attendre à ce qu'un jour la nuit vienne. La nuit, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être notre propre incapacité. Un jour, nous serons vieux. Je me sens moins jeune qu'avant, bien franchement. Mais un jour, je serai vieux, peut-être très vieux. Et peut-être qu'un jour, je ne pourrai plus ni parler, ni me déplacer aussi à l'aise que maintenant. Mais aussi, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, peut-être qu'un jour, nous ne serons plus libres de proclamer notre foi. Déjà, si vous avez le malheur d'aller sur une place publique, on l'a dit tout à l'heure, et de dire que la Bible condamne l'homosexualité, vous vous retrouvez quasiment en prison. Parce qu'il y a une loi en France contre l'homophobie, et il n'y a pas de loi contre la christianophobie, ou la bibliophobie. Et nous l'avons dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, ça veut dire fidèle à Dieu, seront persécutés. Donc la persécution, elle fait partie du plan de Dieu, ce n'est pas une anomalie. Nos ancêtres en ont souffert il n'y a pas si longtemps, nos frères en souffrent actuellement. Et tous ceux-là doivent avoir une certitude, ce n'est pas parce que Dieu les a oubliés qu'il souffre. L'apôtre Pierre écrit ceci dans 1er épître de Pierre au chapitre 4. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Il n'y a que Pierre qui puisse écrire cela. Réjouissez-vous de l'épreuve. Pierre a été lui-même persécuté. Et quand il écrit cela, il l'écrit comme étant un homme qui a déjà traversé les épreuves et qui sait que sa mort en tant que martyr arrivera un jour. Jésus le lui a dit. Toi un jour, tu seras persécuté. Toi un jour, on t'amènera là où tu ne veux pas aller. Il le sait. Comme il le sait, comme il a déjà vécu des choses pour lui, il peut dire, réjouissez-vous, vous imaginez que nous, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire à nos frères persécutés, quelle chance vous avez. Mais quand même, Pierre dit, ne vous étonnez pas. Ce n'est pas une chose étrange. Et l'histoire montre que l'Église grandit et se fortifie dans les temps de persécution. Et que l'Église se ramollit et se rétrécit dans la prospérité. Alors personnellement, je ne souhaite pas la persécution et la souffrance, et je ne la vous souhaite pas. Je la redoute. Mais je suis conscient que la persécution n'éteint pas l'Église. Alors peut-être un jour serons-nous persécutés, pourchassés, nul ne le sait. Mais ce que nous savons, c'est que nous ne devons pas nous installer dans notre confort et que nous devons nous préparer. Nous préparer pour nous et travailler pour les autres. Quand je dis nous préparer, qu'est-ce que je veux dire par nous préparer? Eh bien, c'est déjà connaître notre Bible. Peut-être qu'un jour, nous n'y aurons plus accès. Et peut-être qu'un jour, comme disait Sandrine tout à l'heure dans sa prière, nous n'aurons accès qu'aux mensonges, qu'aux déformations qu'on voudra bien nous donner et qui ne seront plus notre Bible. Et si nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons lu, nous ne pourrons pas tenir. Nous préparer aussi en ayant déjà maintenant une vie de prière, de communion avec notre Dieu. Si nous sommes maintenant en communion avec notre Seigneur, cette qualité de relation nous permettra de surmonter les épreuves. Et travailler, c'est pour les autres. Travailler pendant qu'il fait jour. Porter la parole à ceux qui ne la connaissent pas. Aimer notre prochain. L'aimer et l'aider autant que possible. Prier pour ceux qui n'ont pas le droit de le faire. Prier pour les tortionnaires, pour les geôliers. Ne pas tomber dans la haine, ne pas tomber dans le désir de vengeance. Si nous voulons refléter la lumière de notre Seigneur, rappelons-nous ses paroles sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et actuellement, il y a des milliers de tortionnaires dans le monde qui ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Et parmi ce travail que nous pouvons faire pendant qu'il est jour, nous devons manifester notre solidarité envers nos frères qui endurent la persécution. Alors Philippe a un petit peu fait une liste tout à l'heure de ce que nous pouvons faire, prier. Et les écrits du Nouveau Testament nous donnent des exemples de prières adressées à Dieu pour intercéder en faveur de ceux qui souffrent pour la foi. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul réclame de telles prières pour lui. Je vous lis ce passage, Éphésiens 6. « Priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle, bien que je sois maintenant en prison. » Priez donc pour que j'en parle avec assurance comme je le dois. Il réclame les prières pour pouvoir proclamer la parole de Dieu, bien qu'il soit en prison au moment où il écrit. Nous devons aussi nous manifester, nous mouiller un peu. On peut écrire aux chrétiens eux-mêmes. Mais je me demande si on n'est pas un peu timide dans notre façon d'interpeller nos propres gouvernants. Vous savez, nos gouvernants qui signent si facilement des contrats, des achats d'Airbus, des achats d'épurateurs d'eau, des contrats, sans parler des centrales nucléaires, des contrats avec des pays qui tolèrent la persécution de nos frères et sœurs. Est-ce que de temps en temps, nous ne pourrions pas interpeller nos gouvernements en disant « Vous êtes sûr que vous travaillez là avec des gens droits, des gens qui, d'un côté, vous signent des contrats qui ont l'air tout à fait légaux et d'un autre côté, tolèrent ce qui se passe en Inde, tolèrent ce qui se passe en Arabie Saoudite. On est allé donner un gros coup de main, je crois, aux Libyens pour se débarrasser de Kadhafi. Qu'est-ce qui va se passer après pour les chrétiens de ce pays? Est-ce qu'on ira donner un coup de main aux chrétiens s'ils sont persécutés? Nous pouvons donner notre argent, des vêtements, de l'attention, de la présence. On voit que très tôt dans l'histoire de l'Église, des secours ont été véhiculés par Paul, entre autres, entre des églises nouvellement constituées et puis l'église de Jérusalem, les églises de Judée, qui étaient à la fois persécutées et à la fois en proie à une famine, et qui a eu des secours. On ne s'est pas contenté de dire « on priera pour vous », mais on a envoyé des gens qui sont allés directement assurer de la communion et puis qui ne sont pas arrivés les mains vides. Et puis, Philippe en a parlé aussi, on peut aller. Mon associé a déjà fait 2 voyages. Je ne sais pas, pourtant je suis très proche de lui, je ne sais pas où il est allé, parce qu'il n'a pas le droit de le dire, pour apporter du secours, des Bibles, dans des endroits où les chrétiens sont persécutés, démunis de tout. Cela peut être quelque chose qui nous interpelle. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Nous devons marcher et travailler pendant qu'il fait jour, utiliser la liberté pour l'Évangile. La liberté que nous avons encore dans notre pays doit être utilisée pour annoncer la parole du Seigneur. Pour Paul, ce n'était pas une option. 1 Corinthiens 9, « Si j'annonce l'Évangile, dit-il, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et pour nous aussi, ça doit être un impératif. Qu'est-ce que vous avez au pied? Éphésiens 6, « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Il faut des chaussures à zèle. C'est des chaussures pour avancer et proclamer l'Évangile. Mais annoncer, ce n'est pas des mots seulement. Si notre vie dit le contraire, si nos actes disent le contraire de ce que nous disons, personne ne pourra nous entendre. Annoncer, c'est aussi une conduite droite, une vie juste, un comportement qui ne montre pas le contraire de ce que nous disons. Si nous proclamons l'amour, nous devons vivre l'amour. Rappelons-nous que nous sommes ou que nous devons être la lumière du monde. Et que nous le serons dans la mesure où nous reflétons la conduite parfaite de notre Maître, Jésus-Christ. Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 2, il leur dit ceci, « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. » Ne laissons pas non plus brider, ligoter notre liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dit Paul aux Galates. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Qu'est-ce que ça peut être pour nous, le joug de la servitude? C'est peut-être des servitudes que nous nous imposons nous-mêmes. Le confort. Le pouvoir, un certain niveau de vie, la dernière voiture à la mode, la mode, notre souci de respectabilité, tout cela peut nous prendre notre liberté. Tout cela peut devenir pour nous une priorité qui va brider notre liberté, nous empêcher d'agir. Et puis, il y a une mauvaise façon d'utiliser la liberté, c'est de faire le mal. Toujours aux Galates, Paul écrit, chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous serviteurs les uns des autres. » Et Pierre écrit, 1er épître de Pierre, chapitre 2, « Vous êtes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant comme des serviteurs de Dieu. » Elle est belle cette image, vous ne trouvez pas? Cet oiseau, il est libre et il y a un beau champ plein de moissons dessous, qui n'attend que la moisson du Seigneur. Ceci sera ma conclusion. Si parfois nous pensons que nous pouvons faire si peu et que ça vaut presque pas la peine de faire quelque chose parce que c'est si peu, et c'est vrai que par rapport à la détresse de nos frères dans le monde, nous pouvons faire très peu, si peu. Souvenons-nous de ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Même s'il est petit, il aura toujours son effet. Même si notre prière est malhabile, même si elle n'a pas la puissance, les belles envolées lyriques de ceux qui savent bien parler, même si notre don, c'est quelques euros, même si notre temps, c'est quelques minutes, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te demandons d'éveiller nos cœurs. À la fois à la souffrance de ceux qui souffrent pour toi et à la nécessité que nous avons de faire quelque chose. De faire quelque chose là où nous sommes maintenant, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou pour aider ceux qui te connaissent déjà près de nous, travailler pendant qu'il fait jour, en sachant que peut-être demain nous ne pourrons plus le faire, et puis à la nécessité aussi d'aider ceux qui sont dans la détresse à cause de ton nom, et de les aider de toutes les manières possibles. Alors, effectivement, il y a des chrétiens qui ont réfléchi, qui ont pensé avant nous, qui sont plus informés, qui peuvent nous donner des informations comme porte ouverte, Et nous te remercions pour l'existence de cette association, de ces chrétiens. Nous te remercions pour leur implication, parfois au péril de leur vie, pour ceux qui font des voyages et qui vont s'informer. Et nous te demandons surtout que nous puissions utiliser ces canaux-là pour manifester notre solidarité. Et ne nous permets pas d'oublier la puissance de la prière. Parce que c'est toi, Seigneur, qui agis. Et tu as voulu le faire en réponse aux prières de ceux qui t'aiment. C'est pour nous un mystère, mais nous l'acceptons. Parce que ta parole nous le dit. Et nous voulons nous engager aux côtés de ceux qui souffrent. Ne nous permets pas aussi de fermer les yeux sur les injustices qui sont autour de nous ou plus loin. Donne-nous le courage et les initiatives pour interpeller notre gouvernement, pour interpeller ceux qui ont l'autorité et leur demander compte du mandat que nous leur avons donné lorsque nous avons glissé notre bulletin dans une urne. Ils nous doivent des comptes. Mais est-ce qu'ils nous les rendent ? Te demandons, Seigneur, de nous rendre sensibles à tout ça, et par-dessus tout, que nous soyons rayonnants de ton amour. Amen.